tourne.
M6 réplique son seul...
Coupez. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes. D'ici d'aujourd'hui, de demain, nous sommes mercredi. Le mercredi, on va au cinéma, c'est bien compris, c'est bien entendu. On se l'est dit depuis longtemps, le mercredi, si on va pas au cinéma parce qu'on n'a pas le temps, peut-être, eh ben au moins on écoute le cinéma, on écoute en parler, puis on y réfléchit. Bon, c'est vrai que les films restent pas très longtemps à l'affiche, mais là, quoique, je vais vous parler de quelques films qui, si, tiennent le coup. Allez, on est parti. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? J'ai voyagé un petit peu, je suis allée au Moulin d'Andé. Le Moulin d'Andé, c'est pas loin de Rouen, c'est dans l'Eure, et en fait c'est le centre des écritures cinématographiques. C'est un lieu absolument magnifique, un lieu qui d'ailleurs est classé monument historique, et puis qui fait partie de l'histoire du cinéma. Bon, ce serait trop long de vous en raconter, je pense que ça mériterait, cela dit, que je fasse un petit sujet sur le Moulin à lui tout seul. En l'occurrence, il s'agissait de deux scénaristes, auteurs, réalisateurs, Fleur Albert et Christophe Cognier, qui ont tous les deux encadré une résidence d'écriture, puisque donc le Centre des écritures cinématographiques accueille des scénaristes et des réalisateurs pour leur permettre de peaufiner leur scénario et puis après de le réaliser. Voilà. Donc Fleur et Christophe étaient là à encadrer les 10 scénaristes sélectionnés. Et je trouvais intéressant de les interviewer, d'avoir leur parcours, parce que justement, les parcours sont toujours très éclairants. Pourquoi on fait du cinéma? Pourquoi on va par là, ou plutôt qu'ailleurs? Et qu'est-ce qui nous intéresse dans notre métier? Alors, j'ai commencé par Fleur.
Je suis Fleur Albert, cinéaste, réalisatrice et scénariste de mes films. Voilà.
Cinéaste et réalisatrice, c'est différent.
Ça peut l'être dans la mesure où on peut travailler pour le cinéma ou faire des films pour la télévision. Après, on peut appeler ça réalisateur, réalisatrice, indifféremment. Mais disons que je fais peu de films pour la télévision. Voilà, je fais des films documentaires, des films de fiction. J'en ai pas fait encore énormément, mais j'ai fait beaucoup de films documentaires sur des thématiques différentes, plutôt liées soit à des sujets historiques, des va dire les héros oubliés de l'histoire, ou sujets plus sociaux, un peu qui sont le prolongement de ceux-là, qui sont un peu les gens qui sont ostracisés, voilà, en minorité. Voilà, mon dernier film, Steingrad Lovers, se passait dans la communauté des usagers de crack à Paris. C'est une fiction très inspirée d'un travail de terrain, en fait, que j'ai fait. Et le dernier film de documentaire que j'ai réalisé, c'est un film sur le chorégraphe Abou Lagra. Je suivais son travail de création pendant un an, à la fois sur son lieu de création, sa résidence qu'il a créée à Nonnet dans une ancienne chapelle et sacralisée, et à l'opéra de Genève, au ballet de Genève, qui aussi lui amène des gens à la danse qui ne sont pas forcément des professionnels, ou qui on voit des corps danser qui ne sont pas forcément des corps qu'on voit tous les jours sur scène.
Et comme ils étaient tous les deux intervenants, donc Fleur et Christophe, et qu'ils vraiment travaillaient en un très beau binôme, je me suis dit que j'allais vous faire ce qu'on appelle en cinéma un montage en parallèle. Donc je vous fais une diffusion de l'un et puis de l'autre juste après. Et là maintenant, c'est à Christophe.
Donc je suis Christophe Cognier, je suis cinéaste, ça veut dire réalisateur de films pour le cinéma et pour la télé. J'ai eu les deux expériences. Je suis aussi auteur, c'est-à-dire j'écris les films, soit les miens, soit d'autres, auteur et scénariste. Et j'ai aussi écrit quelques articles et sur le cinéma et sur l'art et sur la déportation et un livre sur les images faites dans les camps. Donc j'ai plusieurs casquettes. Mais je suis principalement réalisateur. C'est parce que j'ai développé, en fait, depuis une vingtaine d'années, une réflexion qui a d'abord été en film, et puis après en écriture, sur la question des images. Donc c'est un peu toujours la même question. C'est comment on fabrique une image, comment on la pense, comment on la regarde, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a regardée. Et les images faites dans les camps sont parmi, et à mon avis, sont les plus difficiles de l'histoire. Des images. En fait, donc, il y a une acuité tellement forte face à ces images que voilà, ça m'intéressait comme travail. Et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être cinéaste, c'est parce que j'ai vu assez jeune Nuit et brouillard dans l'Arenais, qui est un film, comme on sait, qui est sur les camps de concentration. Donc voilà, j'ai une sorte de destin, mais de rendez-vous pris quand j'étais jeune avec ces questions. Beaucoup de films sur les camps, sur la Shoah, vu beaucoup de films et lu beaucoup de livres sur ces questions. Ouais.
Et voilà comment des centres d'intérêt, je cherche mes mots, ce qui est fâcheux à la radio, comment des centres d'intérêt nous amènent avec des fibres différentes à nous orienter vers le cinéma. Alors évidemment, tout à l'heure, ils vont développer leur parcours, comment ils ont fait pour en arriver là, parce que c'est toujours très intéressant de voir quelles sont les différences, histoire de vous dire à tous, auditeurs, que quel que soit le chemin que vous empruntez, si vous avez envie, vraiment, s'il y a un désir qui vous porte, vous pouvez y aller. Voilà, moi, en tous les cas, c'est le message que j'essaye de vous faire passer avec cette émission de radio. J'avais encore envie de vous parler du Ken Loach parce qu'il est encore en salle et que ça me paraît intéressant d'en parler encore et toujours. J'avais aussi surtout envie, même si tout le monde en parle, j'avais envie de vous parler d'un documentaire qui s'appelle Rendre la justice. Donc le Ken Loach, on vous passe tout de suite la petite critique que j'avais faite lors de Cannes, du Festival de Cannes, on vous la repasse, histoire de vous remettre un petit peu dedans. Si vous arrivez à aller voir Sorry We Missed You, c'est intéressant parce que c'est vraiment sur le phénomène de société de ce qu'on appelle l'ubérisation. Donc un peu à chacun, voilà, l'idée c'est de dire à chacun comment prendre sa place et comment... Peut-être quels écueils éviter, comment résister, c'est pas si simple, mais voilà, au moins la question est posée. Et juste après, puisqu'il s'agit d'être dans la société, je me suis interrogée sur qu'est-ce que c'est que de rendre la justice. On a toujours l'impression que c'est juste, pas juste, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait quand on est de l'autre côté? Justement, quand on doit rendre un jugement, tout simplement, quand on doit prononcer une sentence et décider quelque chose, alors qu'on va toujours, nous, citoyens, nous dire « mais non, c'est pas juste, il y a une justice à deux ou trois vitesses », voilà. En tous les cas, ce documentaire-là pose la question et je voulais vraiment vous en faire écouter un morceau. Donc tout de suite, on va enchaîner. C'est d'abord la critique sur Ken Loach et juste après, on tuile avec « Rendre la justice ». En direct de la plage du CNC du Gré d'Albion à Cannes, quelques retours de critiques. Ken Loach, So We Missed You. C'est l'histoire d'un père de famille qui se lance dans l'indépendance, dans la livraison de colis. Son futur client lui fait miroiter franchise, argent, nouvelle vie, et lui, il y croit. Comme beaucoup. Critique sociale qui s'attaque à l'ubérisation, à l'exploitation de l'ouvrier, de l'être humain, de la main-d'œuvre, ou comment dévoyer les progrès sociaux. Notre personnage principal, s'il est quelque peu attachant, a le défaut d'être assez instable et assez égoïste en chef de famille. Il exploite sa femme à son tour pour s'en sortir lui-même et satisfaire son ego. Un plan toutefois m'a enchanté puisqu'il résume à lui tout seul le cinéma de Ken Loach. Nous avons le héros sur le vélo de son fils, le vélo de son fils jeune, enfant, donc bien trop petit pour lui. Et notre héros avance dans une ruelle vide. Enfin, non, pas vide, il n'y a que des poubelles, des gros bacs à poubelles, et l'une d'elles est tournée du bon côté, bien sûr, pour nous indiquer déchets domestiques. Voilà, tout est résumé par ce plan-là. Honnêtement, je ne boude pas mon plaisir, c'est un beau Ken Loach, mais ce n'est pas son meilleur.
Juger, c'est savoir écouter, essayer de comprendre et vouloir décider.
Bien sûr que ça fait peur, la justice, et je comprends que ça fasse peur. On est terrorisé quand on vient devant la justice, à tout le moins très impressionné.
Il ne faut jamais oublier pour un magistrat que le justiciable, lorsqu'il vient devant lui, c'est l'affaire de sa vie.
Le cauchemar d'un juge, c'est de commettre une injustice.
S'il suffit d'accuser, où seront les innocents?
Nous sommes tous des citoyens. Et à ce titre, nous sommes tous des justiciables potentiels.
Nous devons juger comme nous aimerions être jugés.
La justice peut être une machine à broyer, on nous le reproche souvent. Notre travail, c'est d'essayer de l'éviter, mais je ne vous garantis pas que je n'ai pas broyé quelqu'un. Je vis avec ça tous les jours.
Le magistrat, soyez procureur de la République, soyez juge d'instruction, c'est quand même vous qui êtes aux manettes. Vous avez affaire à des êtres humains sur lesquels vous avez un vrai pouvoir, un vrai impact, que ce soit positif ou que ce soit négatif.
Il se joue dans les salles d'audience des drames humains qui sont pour nous totalement insoutenables. Quand vous êtes juge des enfants et que vous dites à une mère ou à un père qu'on va placer leur enfant, les réactions peuvent être extrêmement violentes.
Le travail qu'on a à faire et c'est un peu un devoir qu'on a comme magistrat, c'est effectivement, faut accepter ses émotions, et ce qu'il faut, c'est arriver à les surmonter pour revenir dans un cadre professionnel, essayer de se blinder, comme on dit communément, et faire son travail normal.
Et puis, il faut prendre des décisions pertinentes, les revoir, et faire confiance, il faut aimer les gens pour faire ce métier.
La vraie manifestation de la force, c'est la douceur.
Robert Salis est le réalisateur de ce film qui dure donc deux heures qui passent évidemment bien plus vite que ce qu'on pourrait supposer. On va se dire, oh, deux heures, mais c'est long pour un documentaire. Eh, mais si on met deux heures, c'est que vraiment ça passe tout seul en fait. En l'occurrence, c'est toujours intéressant d'ailleurs de se poser la question et je vais bientôt refaire une interview sur le sujet, faire un petit sujet justement sur le sujet, sur les films qui sont, les documentaires qui sont plus pour la télé, les documentaires qui sont plus pour le cinéma. Là, celui-ci est vraiment un documentaire cinéma. D'ailleurs, le format notamment nous l'indique, un film de deux heures. Puisque nous sommes en région et que nous avons un film qui a été réalisé, soutenu par Normandie Images, qui est en ce moment à l'Omnia, Le Bel Été. Le Bel Été, c'est de Pierre Créton. C'est un film qui est intéressant à aller voir parce qu'il traite des migrants. Annoncé comme un drame, en tous les cas, c'est vraiment Pierre Créton a sa patte, comme beaucoup de réalisateurs, heureusement. Il a sa patte très, très particulière, très singulière. Et une façon de raconter, cinématographiquement parlant, qui est vraiment très particulier dans le sens où on n'est pas dans une forme narrative habituelle. Il nous laisse nous perdre pour nous récupérer après, pour nous permettre de vivre d'abord, d'éprouver des sensations, et puis après, on comprend ce qu'on vient de vivre. Voilà, c'est intéressant à voir. Et là, c'est l'histoire de Robert, Simon et Sophie qui vivent au bord de la Manche dans un quotidien d'habitude. Nessim va entrer dans leur vie, suivi d'enfants que la situation politique de l'Afrique menace. Tous ont traversé la Méditerranée pour se réfugier en France. Ils vont vivre tous ensemble en Normandie le temps d'un été. Un film qui fait écho au prochain film d'Ariane Doublé, c'est Green Boys, qui traite du sujet également, qui est vraiment magnifique et dont je vous parlerai plus tard, parce qu'il sortira en mars 2020, si je ne me trompe pas, et qui est vraiment... pourquoi je dis qu'il fait écho? C'est parce qu'en fait, Pierre Créton et Ariane Doublé sont voisins, se connaissent très très bien, et qu'ils ont travaillé sur le même type de sujet, de façon complètement différente, une fiction d'une part, un documentaire d'un autre, et d'un autre côté, et que ces films se déroulent au même endroit en Normandie. Voilà. C'était la petite aparté sur les films qui sont actuellement à l'affiche et très bientôt à l'affiche, notamment à l'Omnia, bien sûr. On va repartir vers Fleur Albert qui nous parle de son parcours. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là ?
Sans doute une certaine inadaptation au réel, inadaptabilité à suivre les normes, à se battre contre le réel. La fiction, comme la littérature et le cinéma, est aussi pour moi vient de la musique, donc plutôt le rock'n'roll. Et que c'était des façons subversives de rentrer en relation avec le monde et de le contester. Voilà. J'ai d'abord fait des études de lettres, et c'est pour ça que la littérature était pour moi un moyen de sublimer le réel, et que je voulais d'abord être reporter de guerre. De guerre, je précise, c'est toujours intéressant parce que moi c'était Albert Londres, enfin voilà, la grande littérature de chronique, de voyage, Malraux, enfin voilà. Et puis j'ai fait très jeune des stages dans des rédactions, enfin j'ai été pigiste, j'ai travaillé pour des différents journaux et tout ça, et je me suis rendu compte que finalement c'était pas une vision objective que je voulais donner, c'était une vision subjective. Et que la question de l'écriture c'était, on pouvait s'y adonner de différentes formes possibles et que. Probablement, quand j'ai découvert le cinéma de Jean Rouch et à la fois le cinéma de fiction, c'était à travers le western, à travers des formes plutôt épiques de récits, et que ça me faisait traverser des espaces et des mondes qui n'étaient pas directement accessibles. J'habitais à la campagne, c'était assez étouffant, c'était un monde assez balzacien, on va dire. Donc j'aimais Balzac, mais j'aimais pas me confronter à tout ce qui personnage forcément dans les petites bourgades de province, tout ça, c'était... Donc c'est un monde que je contestais beaucoup. Et que le cinéma, Bergman, voilà, Godard, tous ces cinéastes-là m'ont ouvert un monde et une façon de parler du monde et des personnages et de Chris Marker aussi, enfin des juste un peu dans les ordres. Hein. Tout ça m'est venu à 10, entre 16 et 20 ans. Et je voulais pas être cinéaste forcément. Et c'est vers 23-24 ans où là, justement, après avoir fait des études après plutôt liées au cinéma ou au documentaire, après des études de lettres, je voulais pas passer mon agrégation et je voulais continuer de visiter le monde en images. Et en fait, le cinéma était une forme pour moi de faire écran au monde, de faire, c'était un filtre. Un filtre entre moi et les autres, ou pour aller vers les autres. J'ai fait des films qui étaient plutôt documentaires, et puis petit à petit, cette matière-là, j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelait Jean-Michel Carré, qui s'occupait beaucoup de sujets sociaux, d'un des premiers qui a travaillé sur les femmes en prison, sur la prostitution, etc. Très jeune, j'ai été son assistante, j'avais 21 ans, et c'est la prise de conscience très tôt qu'il y avait une parole et des corps qui n'étaient jamais montrés, qui pouvaient devenir des héros de cinéma ou des héroïnes de cinéma.
Voilà un exemple, un type de parcours. Alors évidemment, tous sont différents et j'insiste sur le fait que tous les réalisateurs n'ont pas forcément un message à passer. Il suffit d'aimer cette façon de s'exprimer, de raconter des histoires avec un grand cadre. Parce que c'est ça aussi le cinéma, c'est cette faculté de regarder entièrement une image qui est plus grande que soi. Voilà, la différence de la télé, c'est avec la télé, c'est entre autres, c'est ça aussi, qu'on ait ou non un message à faire passer. Mais moi, vous l'aurez compris, j'aime bien raconter, parler de parcours et de films qui racontent vraiment quelque chose, puis qui nous ouvrent un petit peu les yeux sur d'autres modes de vie. On écoute maintenant Christophe Cognet qui nous raconte comment lui, il est arrivé dans le cinéma, pourquoi ?
L'autre raison qui est plus prosaïque mais qui est pour moi très profonde, c'est que j'ai réalisé un film à 18 ans avec des copains et moi j'étais plutôt destiné, j'ai fait un bac C à l'époque on disait, j'étais plutôt destiné à faire des sciences et des mathématiques. Et je me suis jamais senti aussi bien qu'en faisant un film. Voilà. Donc je me suis dit, c'est mon truc en fait de faire des films. Voilà. Donc à partir de là, j'étais allé très peu au cinéma. Je connaissais pas très bien le cinéma et je me suis fait une culture de cinéma. Puis je me suis mis petit à petit. Alors j'ai été chef opérateur, j'ai été photographe de plateau, j'ai été premier assistant, j'ai été assistant opérateur. J'ai fait un peu presque pas tous les métiers, mais enfin j'en ai fait quelques-uns. Tout en commençant à réaliser mes propres films, et petit à petit, voilà, j'ai fait mes films.
Il y a un autre réalisateur qui a fait à peu près tous les métiers et puis qui est passé à peu près partout et qui a découvert le cinéma comme ça, entre potes, parce que c'était dans l'immeuble que ça se passait. C'était dans son immeuble, il avait les voisins et les copains qui étaient des copains et de la famille de cinéastes et du milieu du cinéma. Et donc, il a goûté à tout. Les postes, on va dire. Il a été accessoiriste sans savoir que ça existait, un accessoiriste. Il a été assistant chef-op, etc. C'est Ladj Ly qui nous a réalisé Les Misérables, le fameux film dont tout le monde parle. Alors oui, on en parle parce que le président a pleuré et que tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens dans la vraie vie, notamment sur les quartiers, et que c'était très dur, qu'il fallait se poser la question. Donc bravo, voilà, le cinéma, ça peut aussi servir à ça. Je vais évidemment vous passer tout de suite la bande-annonce, c'est mieux. Enfin, merci Mosquito, plutôt de nous passer la bande-annonce.
J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein.
Contrôle de police, vous faites quoi, là?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça.
Eh, hey, c'est bon, Sylvie.
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là?
Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Eh, hey, les gars, soleil.
Le truc qui te respecte, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
reconnaissant. Quand t'as volé un lion?
Ouais.
Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi là!
Bouge pas, arrête-toi!
Vous n'éviterez pas la colère et les cris.
Putain!
La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé.
Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone? Là, il y a un gamin inconscient là!
C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut.
C'est quoi votre problème, hein? C'est quoi votre putain de problème?
C'est moi la loi!
Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident?
Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure.
C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.
Tu vas trop loin là!
T'auras jamais l'esprit BAC toi.
Parce que je joue pas au cow-boy.
Ce que t'as pas compris, c'est que justement on joue pas nous.
Avec silence, on écoute le cinéma, et ben on écoute tous les cinémas et toutes les formes de cinéma, ou presque. D'ailleurs, tiens, ça serait intéressant que j'aille me frotter vers des genres qui ne m'intéressent pas trop, parce que je sais qu'il y a des spectateurs pour ça, et des auditeurs aussi pour ça, comme les thrillers, etc. Promis, un jour, je m'y pencherai, alors que c'est pas tellement mon kiff au départ. Cela dit, tiens, je pense à un film que j'ai vu, j'ai un peu sursauté sur mon fauteuil, j'ai eu du mal à regarder tout. Joker, très intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que c'est une parabole de la société. Et là, pour le coup, vraiment, c'est du monde dans lequel on est, qui est hyper intéressant, puis extrêmement bien joué, extrêmement bien réalisé, qui nous perd un petit peu justement entre le vrai, le faux, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fantasmé, et notamment en ça, c'est aussi passionnant. Enfin bref, il est très très bon ce film-là, je vous en dis pas plus, c'est un film que vous allez trouver facilement, il est aussi à l'Omnia. On va reprendre la fin de l'interview de Christophe Cognet sur son parcours cinématographique avant de vous parler d'un autre film.
Alors, en autodidacte sur les plateaux, mais j'ai fait une fac de cinéma qui était une fac théorique. J'ai eu assez vite, après cette expérience de film, j'ai réalisé avec d'autres copains, j'ai participé à des films, donc en tant que premier assistant, comme je disais tout à l'heure. Et donc, d'une certaine façon, j'avais une pratique qui se faisait petit à petit. Donc, quand j'ai voulu faire l'université, j'ai choisi la fac la plus théorique qui existait à cette époque-là sur le cinéma, qui est Paris 3, qui est la Sorbonne Nouvelle. Où on faisait que de l'esthétique, de l'histoire du cinéma, de l'analyse de films. Il y avait une caméra pour 20 000 étudiants, donc il n'y avait pas beaucoup de pratique. En fait. Donc et là, je suis allé jusqu'au doctorat. Enfin, j'ai commencé à vivre de la réalisation à peu près à cette période. Le dernier film que j'ai fait produit par et pour la télévision, c'est en 2005. Et depuis, j'ai fait que des soit courts-métrages, moyens-métrages ou longs-métrages en production cinéma.
Voilà, c'est intéressant de se dire que c'est aussi par l'aspect très théorique que ça peut passer. Alors pas que puisqu'il avait fait un film avec des copains, etc. On recolle avec ce qu'il a dit plus haut. Mais c'est quand même 8 ans, je crois, 8 ans d'études non, pour avoir un doctorat. Enfin, c'est voilà, des parcours. Encore une fois, je ne cesse de vous le dire, les parcours sont tous différents. Les façons de vouloir aborder le cinéma, le pourquoi du comment, à chaque fois c'est différent. Et c'est toujours très enrichissant de découvrir ce que ça donne. Je finis avant de finir, il y a quand même encore deux petites choses. La première, c'est Little Joe, c'est un film que nous avons vu à Cannes avec les filles des Hauts-de-Rouen et nos avis étaient extrêmement partagés. Par exemple, Jean-Paul, il a vraiment adoré. Les filles ont été un peu sensibles, mais bon, c'était un petit peu long. Moi, je suis plus partagée parce qu'il y a un côté esthétisant qui était un petit peu too much. Cela dit, le propos et la parabole, encore une fois, est intéressante. Ma critique de Cannes. Little Joe de Jessica Ostner. Une chercheuse biologiste vient de créer dans un grand laboratoire une plante, une fleur qui dégage une douce odeur imprégnée de bonheur. Cette plante nous plonge dans un espace science-fiction et vers la fin d'un monde, et oui c'est le principe des science-fiction, des films de science-fiction en général, en aseptisant les êtres humains de toute émotion négative, elle uniformise et surtout elle vampirise. Tout le monde la trouve belle et veut la défendre à tout crin, comme une mère le fait avec sa progéniture, ça tombe bien, l'odeur qu'elle dégage est teintée d'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir qui est sécrétée puissamment par la maman lors de l'accouchement. Une musique japonisante omniprésente, qui aurait pu être plutôt sympa, hein, qui n'était pas désagréable, mais tellement omniprésente qu'elle est insupportable. Un rythme lent, lancinant, soporifique, des images aseptisées, justement, déjà dès le début en fait, il n'y a pas eu de modification et d'évolution dans les images, dans lesquelles moi je ne me suis absolument pas identifiée, tout est là. Chez qui peut-on s'identifier? Chez personne. Enfin moi en tous les cas je me suis suis plutôt ennuyée. Pourtant, l'allégorie est plutôt de taille, en effet. Ça présente vraiment que si nous nous uniformisons tous, nous perdons notre identité à chercher le bien-être à tout prix. Et justement, ce qui le constitue est exactement ce que nous perdons, c'est-à-dire qu'en gommant nos aspérités, nous entrons dans un monde sans saveur. Bon, bah, c'est déjà vu et c'est déjà compris. Je vous rappelle que vous êtes sur le mix des cultures et justement sur le mix des cultures, on apprend à découvrir, à partager avec tout ce qui nous constitue. C'est ça la richesse de la société dans laquelle on est et de la radio HDR. Et pour finir silence, on écoute le cinéma. Eh bien, je vous ai parlé de mes petites capsules cinéma et là, on est parti avec Grégory Leperf qui est programmateur du cinéma Dieppe Scène Nationale. Donc à Dieppe, bien sûr, c'est un théâtre cinéma et là, il est obligé justement puisqu'il partage ce plateau, cet espace avec le théâtre, il est obligé d'avoir une programmation très très particulière et de jongler avec les propositions de la semaine, puisqu'il y a je ne sais plus combien de films par semaine qui sortent, c'est assez énorme. On écoute Grégory, on se quitte et on se retrouve dans quelques jours, en décembre, pour revenir sur les nouvelles sorties et les nouvelles rencontres cinéma. À bientôt.
C'est une expression artistique,
À quoi ça sert ?
Ça sert à voyager, ça sert à ouvrir des... Ça sert à être heureux.
Le premier film.
Bernard et Bianca. Dans un cinéma qui n'existe plus au Havre. J'ai plus un souvenir de la salle en elle-même, du public, des fauteuils, que véritablement du film en fait.
Un souvenir de cinéma.
Citizen Kane, où on avait réussi à se laisser enfermer dans le cinéma pour le revoir une deuxième fois.
Ton dernier film ?
Alors on danse, Then We Dance en anglais, géorgien très fort sur l'histoire d'un jeune danseur folklorique qui va voir son destin contrarié par une histoire d'amour.
Et si le cinéma était une œuvre de l'alphabet ?
Une lettre de l'alphabet L, et qui s'entend comme E2LE. Qui a trait à la naissance de quelque chose. C'est compliqué comme question quand même. Et je pense que c'est ça aussi, si on revient, le cinéma c'est aussi un lieu.